franceinter.fr.
À la une de la science, Donald Trump et son administration qui n'ont pas perdu de temps pour asséner un coup de massue à la communauté scientifique. Une série de mesures annoncées hier et mardi interdisent désormais aux chercheurs employés des agences fédérales de répondre aux journalistes ainsi que de mettre à disposition du public des résultats de recherche via Internet ou les réseaux sociaux. Et pire encore, les données climatiques publiées et en cours de publication par l'Agence nationale pour l'environnement vont faire l'objet d'un contrôle direct de la part de l'administration. Serge Haroche, bonjour. Merci d'être avec nous en ligne pour réagir donc à cette série d'annonces arrivées des États-Unis. Vous êtes prix Nobel de physique, plusieurs fois vous êtes exprimé sur notre antenne et vous avez exprimé vos inquiétudes vis-à-vis de l'administration de Trump. Cette fois, il faut employer le mot, on parle de censure, clairement.
Oui, je pense que oui. En fait, je me souviens qu'il y a à peu près un mois et demi ou deux mois, juste après l'élection de Trump, j'avais déjà dit l'inquiétude des milieux scientifiques aux États-Unis et dans le monde. Et malheureusement, nos craintes sont maintenant justifiées. À chaque étape, on pense qu'il va reculer, que ce qu'il a dit pendant la campagne électorale ne va pas l'appliquer. Et on s'aperçoit à chaque fois que c'est plus grave que ce que l'on pensait. Il est clair que maintenant, il s'agit véritablement il s'agit de subordonner la publication d'articles scientifiques ou de données à une censure ou à un contrôle par une administration qui n'est pas directement scientifique. Il s'agit d'une censure et c'est extrêmement grave.
Quelle est la stratégie derrière toutes ces mesures? Pourquoi les scientifiques, dès les premiers jours de son arrivée au pouvoir?
Écoutez, c'est un homme dont l'administration vient d'inventer ou vient en tout cas de définir la notion de vérité alternative ou de fait alternatif. Et ça signifie simplement que on refuse les faits qui ne sont pas, qui sont contraires aux intérêts que l'on suppose être les intérêts du pays. Et donc, par exemple, le réchauffement climatique, on le considère comme étant un fait qui peut être amendé, qui peut être modifié en fonction des circonstances, sous prétexte simplement parce que les informations que l'on obtient sont embêtante sur le plan économique. Il y a quelques semaines, au cours d'une interview par le New York Times, Trump avait déclaré, lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le réchauffement climatique était un fait avéré, il a dit que c'est compliqué et puis ça va coûter beaucoup d'argent. Donc voilà la philosophie de quelqu'un qui pense que la vérité doit être subordonnée savoir si ça va avoir une influence un impact sur l'économie ou sur les finances. C'est vraiment extrêmement grave de voir que finalement le thermomètre, en particulier tout ce qui permet de mesurer l'existence du réchauffement climatique ou sa gravité, eh bien on refuse de le prendre en compte parce que c'est une information qui est dérangeante.
On a vu apparaître sur les réseaux sociaux un mot-clé cette semaine aux États-Unis, c'était « data refuge » des scientifiques, surtout des climatologues, oui, qui cherchaient à faire des sauvegardes de leurs données certifiant du réchauffement climatique hors des laboratoires. C'est un phénomène dont vous avez entendu parler ?
Oui, j'en ai entendu parler il y a quelques jours et ça me paraît effectivement une mesure saine. Il faut que la communauté scientifique puisse se défendre et si elle peut protéger les données qui sont mises en danger par cette censure qui semble s'avérer de plus en plus, eh bien, il faut absolument qu'elle le fasse.
Vous pensez vraiment qu'il pourrait mettre en place une forme de désinformation climatique à grande échelle via les agences fédérales ?
J'espère que non, mais enfin, la désinformation, elle est déjà là. Et je trouve que c'est assez paradoxal que quelqu'un qui a basé toute sa communication sur des tweets ou sur des réseaux sociaux interdise l'utilisation des réseaux sociaux à ceux qui pourraient essayer de remettre les choses au point et de donner leur point de vue.
Ouais, Serge Haroche,
ça me paraît extrêmement grave.
Vous discutez évidemment avec vos confrères américains régulièrement. Qu'est-ce qui vous arrive de leurs propos? Quel est le sentiment là-bas aux États-Unis lorsqu'on est un scientifique aujourd'hui à l'ère Trump?
Les scientifiques que je connais sont absolument atterrés. Les bras leur tombent. Enfin, ils sont dans un état de sidération. Je crois qu'on peut le dire et que le mot n'est pas trop fort. Jusqu'au dernier moment, ils ont pensé d'abord, ils ne croyaient pas en l'élection de Trump, comme la plupart des médias également, et là, ils sont vraiment tombés des nues lorsque ça leur est tombé dessus, en quelque sorte. Ils ne savent pas quoi faire. C'est clair qu'il y a un moment de désarroi dans la communauté scientifique, non seulement en ce qui concerne la science et la recherche scientifique, mais tout simplement l'éducation. On parle de mesures prises par Trump dans le cadre de l'environnement, enfin de l'Agence pour la protection de l'environnement, mais la personne qui l'a nommé à l'éducation est également quelqu'un d'extrêmement dangereux pour l'éducation du pays, puisque c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'éducation publique, qui est créationniste, qui ne croit pas en la théorie de l'évolution et qui veut promouvoir dans l'éducation les thèses créationnistes et mélanger les notions de science et de religion de façon absolument délétère et dangereuse pour le pays.
On parlait jusqu'à aujourd'hui de la fuite des cerveaux vers les États-Unis. Vous pensez que c'est un phénomène qui va s'inverser ?
J'espère que non, parce que ce serait extrêmement grave que le pays, un pays qui a été à la tête de la science mondiale en soit arrivé là. Mais je sais, j'ai entendu dire que, en tout cas, des scientifiques venant en particulier de pays du tiers-monde, du Moyen-Orient ou d'Inde, commencent à se sentir mal à l'aise après l'élection avec le climat qui a été créé par l'élection de Trump. Et ces jeunes scientifiques, s'ils n'ont pas, en particulier ceux qui sont des post-docs et qui n'ont pas de position permanente, vont être tentés de revenir, de quitter les États-Unis, de revenir par exemple en Europe. C'est quelque chose dont l'Europe pourrait profiter, mais ce n'est pas ce que je souhaite, parce que vraiment, profiter d'une situation comme celle-là n'est certainement pas quelque chose qui est souhaitable.
Serge Haroche, certains scientifiques organisent la résistance déjà aux États-Unis. Une grande marche est prévue en mars à Washington pour réfléchir justement à faire barrage à l'administration Trump. Quels sont les moyens de lutter contre ces actions? Et est-ce qu'en Europe, vos confrères ont envie de se mobiliser aussi pour essayer de faire quelque chose?
Je pense que ce serait effectivement bien de montrer les signaux en Europe, indiquer qu'on est de tout cœur avec les scientifiques américains, qu'on essaye de les soutenir dans ces circonstances pénibles. Ce qu'on peut faire exactement, je ne sais pas. Je sais que le domaine de la science qui est le plus directement menacé, c'est celui qui porte sur les recherches sur le réchauffement climatique, puisque Trump essaye de saboter tous les efforts allant en ce sens. Et je sais que mes collègues en Europe et en France qui ont fortement œuvré pour l'accord de Paris en particulier, pour que les mesures contre le réchauffement climatique soient efficaces et soient mises en œuvre, sont en contact avec leurs collègues américains et toute initiative qu'ils pourraient prendre en ce sens, je pense que toute la communauté scientifique devrait la soutenir.
Merci beaucoup en tout cas Serge Haroche pour vos paroles aujourd'hui donc à la une de la science et puis évidemment la situation qui sera à suivre de très près et au jour le jour visiblement vu la vitesse
des événements. La vitesse où ça va, oui.
Merci Serge Haroche, au revoir et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref dans le reste de l'actualité scientifique, le diabète responsable d'un mort sur 10 justement aux États-Unis. Des chercheurs des universités de Boston et de Pennsylvanie ont analysé deux bases de données nationales compilant des informations sur près de 300 000 Américains entre 97 et 2010. Ils ont conclu que le diabète était responsable de 12% des décès là-bas. La précédente étude de ce type portant sur les années 80-90 imputait seulement 4% des décès à cette maladie. Selon les scientifiques, cette disparité est due à la fois à des erreurs statistiques et au développement épidémique du diabète dans le pays. Les vents de Jupiter reproduits en laboratoire lors de l'émission de lundi dernier, on vous expliquait que la dynamique de l'atmosphère de Jupiter restait très mystérieuse. Eh bien, la revue Nature Physics nous apprend cette semaine qu'une équipe de scientifiques français a percé une partie de ce mystère. Dans un réservoir de 400 litres d'eau, ils ont réussi pour la première fois à recréer des turbulences similaires au courant jet de la planète géante et à générer localement la géométrie de son atmosphère. Désormais, les chercheurs vont utiliser les données de la sonde Juno en orbite autour de la planète afin d'affiner leur modèle. Et puis dans le futur, nos vêtements pourraient augmenter notre force, c'est ce que semble permettre le tissu actionneur. Mis au point par des scientifiques suédois, ces derniers ont tricoté des fils de cellulose mêlés à un polymère appelé polypyrrol, qui a la particularité de s'étendre ou de se contracter lorsqu'il est soumis à un courant électrique. Testé avec succès sur un bras en Lego, les chercheurs pensent que des vêtements fabriqués avec ce tissu pourraient aider des personnes ayant du mal à marcher ou souffrant de faiblesses musculaires.